Yo lo voy a hacer con el aire.
Bonsoir. Adoption hier au Sénat de la loi sur les finances publiques en RDC. Cette loi a pour objectif d'améliorer la gestion des finances publiques en fixant les règles de gestion applicables au budget du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Quelles sont les grandes lignes de cette loi? Cette loi va-t-elle réellement permettre l'amélioration de la gestion des finances publiques en RDC? Nos invités dans cette émission sont Michel Stomoué, analyste et directeur général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo. Monsieur Stomoué, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Lucien Boussa, député MLC et vice-président de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Honorable Boussa, bonsoir. Ezaki Mereko et Désia Patrice, sénateur, membre de l'AMP et vice-président de la Commission économique, financière et bonne gouvernance au Sénat, il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Vos réactions, comme d'habitude, nous les avons déjà. Marcel de Lumbashio Katanga, malgré cette nouvelle loi, notre comptabilité nationale est un canard boiteux car elle ne reflète jamais la réalité de ce qui se passe sur terrain. En effet, beaucoup de fonds générés dans les entreprises de l'État se volatilisent dans la nature. Je donnais Mwamba de Kinshasa, l'impunité caractérise notre société tant que les détourneurs des fonds à tous les niveaux du pays mènent leur vie sans être inquiétés. Cette loi n'aura pas d'effet positif. Qu'a-t-on fait? Les détourneurs des fonds cités dans des rapports parlementaires et autres dossiers mafieux. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081-890-66-68 ou nous écrire par SMS au 081-051-57-78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapitaine.net.
La loi sur les finances publiques en RDC a été adoptée dans sa globalité ce mercredi au Sénat, après l'avoir été précédemment à l'Assemblée nationale. Objectif, améliorer la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. Car les finances publiques congolaises s'effectuent à ce jour dans un cadre juridique et institutionnel inadapté. Les grandes lignes de cette loi avec vous, Mignan Ngumba Mulongo.
Ce projet de loi proposé par le gouvernement vise l'amélioration de la gestion des finances publiques congolaises. Parcourant quelques-unes de ces pages, on se rend compte que la loi définit les règles de gestion applicables au budget du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Ces règles concernent notamment l'affectation des ressources et des charges. À cela, il faut ajouter l'élaboration, la présentation, l'adoption et l'exécution des édits budgétaires. Cette démarche s'avère nécessaire dans la mesure où les finances publiques congolaises s'effectuent actuellement dans un cadre juridique et institutionnel inadapté, mentionne les documents. Face à cette réalité, une modernisation de la loi financière s'impose pourvu qu'elle tienne compte des dispositions de la Constitution révisée. Évoquant les innovations, la dite loi fait savoir qu'il est prévu l'organisation en un seul texte des lois des finances, des budgets des provinces et des entités territoriales décentralisées. Sur la liste de nouveautés, il faut s'y ajouter la prise en compte de la décentralisation et la redéfinition des budgets annexes. Elle prône une pratique orientée vers une obligation de résultat pour la réalisation des objectifs du développement dont ceux de la croissance et de la réduction de la pauvreté pour ne citer que ces points.
Merci à Mimi Ngumba Mulongo. Signalons que cette loi qui a été adoptée en des termes différents entre les deux chambres du Parlement ira en commission paritaire Assemblée nationale Sénat pour dissiper les divergences et harmoniser le texte qui devrait être soumis à la promulgation du président de la République. Sénateur Ezaki Patrice, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de la Commission économique, financière et bonne gouvernance au Sénat. Cette loi a été adoptée hier dans son intégralité au Sénat. L'émission est également pédagogique. Quelles sont les innovations?
Les innovations de cette loi sont nombreuses. Cette loi de finances publiques s'oriente d'abord vers la gestion axée sur les résultats.
C'est-à-dire?
c'est-à-dire il introduit la culture de la performance dans la gestion publique avec une évaluation systématique des politiques publiques en termes d'efficacité, d'efficience, de pertinence et d'incidence socio-économique. Le budget de l'État ne sera plus élaboré selon l'optique de moyens, mais plutôt selon l'optique des résultats.
Alors, sénateur, excusez-moi, à ce niveau-là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les auditeurs et les internautes qui sont en train de nous suivre?
Bon, cela veut dire ceci. Avec le moyen qu'on dispose, il faudra déterminer des objectifs à atteindre. Ils doivent être concrets et atteindre effectivement ces résultats.
Et quelle est la différence par rapport à ce qui se fait maintenant dans l'élaboration du budget?
Dans l'élaboration du budget, jusque-là, selon la loi des finances actuelle, on partait de recettes. Aujourd'hui, on doit partir des prévisions, des objectifs qu'on s'est fixés préalablement et on réunit des moyens pour pouvoir les réaliser.
Je vous en prie, continuez avec les innovations.
Oui, deuxième innovation, cette loi introduit la pluriannualité du budget. Il prône l'utilisation d'un cadre budgétaire à moyen terme dont le budget de l'année constitue la tranche annuelle. Le processus budgétaire se place désormais dans une perspective de moyens afin de permettre à la production des agrégats de recettes et de dépenses par nature sur le moyen terme. Troisième amélioration, je ne sais pas si je peux
vous en prie.
Troisième amélioration, innovation qu'introduit cette loi, c'est la couverture des soins des administrations publiques afin de mieux refléter dans les agrégats macroéconomiques les informations sur toutes les administrations publiques.
Oui, sénateur, il y a également une innovation qui concerne la décentralisation, mais que hier, au cours du débat au Sénat, il y a beaucoup d'intervenants, c'est le cas du sénateur Locondo, qui ont évoqué par exemple le fait qu'il y aurait des dispositions qui dérangeaient un peu la loi sur la décentralisation. N'y a-t-il pas d'autres dispositions dans ce sens-là?
Mais
ces dispositions.
Il n'y a pas de dispositions qui sont énervées dans le cadre de. On veut tout simplement élaborer une loi qui regroupe tous les textes à caractère financier qui étaient éparpillés dans d'autres dispositions dans un texte unique qui couvre toute l'administration du pays. C'est tout simplement ça.
Alors, puisque cette loi a été adoptée en des termes différents avec l'Assemblée nationale, est-il déjà opportun de relever certaines divergences?
Bon, je ne sais pas s'il faut le dire à ce niveau. De toute façon, le principe est que lorsque les lois sont votées à des termes différents au niveau des deux chambres, on se retrouve au niveau des paritaires pour harmoniser toutes ces divergences. Pour la loi dont il est question maintenant, les divergences sont surtout au niveau des calendriers de session des assemblées provinciales. La réforme de cette loi veut que les provinces élaborent leur budget après que le pouvoir central ait voté son budget. C'est pour avoir la quotité de rétrocession de 40% qui revient en province, que cette quotité ne soit plus une provision, mais une quotité définitivement déterminée qui permet aux provinces d'asseoir leurs investissements et leurs programmes.
Alors, en parlant des 40%, il y a cet auditeur Pépé Lissoungui de Kisangani en province orientale qui vous demande comment voulez-vous que les provinces respectent cette loi au moment où la rétrocession des 40% n'a pas été respectée?
Non, je crois que ne pas parler de non-respect de 40%, cette loi a été élaborée avec les concours, avec l'appui, avec la collaboration des provinces. Il y a eu deux séminaires qui ont été tenus ici à Kinshasa, au centre Nganda et au centre Laïs, où on a associé les provinces pour avoir leurs avis pour rédiger la nouvelle loi ici. Donc, disons maintenant comment on procède pour les 40%. Le pouvoir central alloue des provisions qui peuvent être moins, comme ça peut être plus sur base des statistiques.
Du tripotage en fait.
Oui, aujourd'hui on veut, et l'esprit de la loi actuelle veut, qu'on communique aux provinces les quantités qui leur reviennent effectivement, mais pas à titre de provision.
Honorable Jean-Lucien Boussa, vous êtes député NLC et vice-président de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Quelle est votre perception par rapport à l'adoption de cette loi que vous, à l'Assemblée, vous avez précédemment adoptée, qui a été hier au Sénat?
La question qui se pose est celle de savoir quel est le lien de causalité entre la nouvelle loi et l'amélioration des performances de la gestion des finances publiques. Je crois que c'est la question de base.
Ouais.
Par rapport à cette question, je crois qu'il faut bien se rendre compte que je dois avec cette loi et les motivations qui ont été indiquées par le gouvernement, que dans ce pays, il n'a jamais existé des politiques budgétaires. Parce que parler de finances publiques renvoie à l'existence des politiques budgétaires. Sinon, à l'existence de politiques budgétaires dites efficaces, qui permettent d'atteindre les objectifs socio-économiques, notamment la stabilité des prix, la croissance économique, l'équilibre extérieur, la création des emplois. Maintenant, le fait qu'on ait changé des lois, va-t-il permettre de pouvoir réaliser de la manière la plus efficace possible ces objectifs? C'est la question. Est-ce que le fait qu'on ait eu une loi qui... aujourd'hui a été considéré comme obsolète, qui justifie la modification, a été à la base des échecs que nous avons connus d'un point de vue de la gestion des finances publiques. C'est autant de questions pertinentes qu'il faudrait déjà, auxquelles il faudrait déjà répondre. En ce qui me concerne, le problème de ce pays n'est pas le fait des lois. Le problème de ce pays, c'est la capacité à pouvoir mettre en application les lois existantes. Et si nous rentrons dans la sphère économique, notamment dans les finances publiques, le grand problème de la République démocratique du Congo a été et est encore l'existence ou la définition de politiques publiques cohérentes, adéquates, susceptibles de pouvoir permettre de trouver des réponses idoines aux problèmes qui se posent à notre société, en matière de croissance économique, en matière de stabilité des prix, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en matière d'emploi. Certes, que la nouvelle constitution de la République, celle de 2006, implique, avec le choix de la décentralisation qui est un choix très fort, n'est-ce pas, l'adaptation de certaines lois et la modification de certaines autres lois. Et donc, la loi de finances publiques aussi rentre dans cette catégorie où il faut à la fois l'adapter aux dispositions constitutionnelles qui, elles, ont impulsé de nouvelles réformes, n'est-ce pas, mais en même temps aussi il y a un contexte de gestion de finances publiques qui implique qu'il faut absolument réajuster un nombre de normes que nous avions. Donc, je crois que ce n'est pas le problème. Maintenant, il y a des innovations, certes, la gestion sur base de résultats, mais l'ancienne loi n'empêchait pas que l'on puisse gérer sur base de résultats. Il suffit de définir des bonnes politiques, de les appliquer, d'évaluer et d'évoluer. Comme le problème qui se pose aujourd'hui à ce pays n'est pas le fait qu'on ait une bonne loi. La loi qui vient d'être adoptée au Parlement, qui a été préalablement adoptée à l'Assemblée nationale, c'est vrai, même s'il y a des termes divergents, on finira par les harmoniser dans l'intérêt de la République. Cette loi pose des principes novateurs. Il pose des nouveaux principes qui tiennent compte de la réalité juridique, constitutionnelle et la réalité socio-économique et financière. Mais quel est le vrai problème? Moi, j'aimerais répondre à la question. Le vrai problème, est-ce que les dirigeants politiques, c'est-à-dire les acteurs institutionnels, qui ont comme levier, en termes de gestion publique, la politique budgétaire, ont-ils une vision du développement de la République qui se décline, n'est-ce pas, dans la définition des bonnes politiques budgétaires? C'est la question. J'y réponds tout de suite. Non, depuis des décennies.
Et pourquoi?
Deuxièmement, et la réponse vient, question de volonté politique. D'abord, manque de vision, déficit de volonté politique, c'est-à-dire la volonté de se dire, nous sommes dans tel état de l'économie ou du social, nous voulons un autre état qui améliore la condition de vie de nos compatriotes. Donc il y a un problème de volonté politique, il y a un vrai problème de gouvernance dans ces pays, quelle que soit la loi, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit la meilleure, mais s'il y a un problème de gouvernance, cette loi ne sera jamais appliquée. Il y a la qualité, le problème de gouvernance nous ramène à la problématique de la qualité des élites congolaises. Quelles veulent les élites congolaises? Qu'est-ce que ces élites? Et je termine. Et puisque j'en ai parlé, lesquelles élites impulsent des politiques? Je crois que c'est ça le débat. La loi est là, elle est peut-être novatrice, mais le problème n'est pas la loi. Le problème, c'est la volonté des dirigeants à déterminer une nouvelle société pour les citoyens.
Chantal Faïda de Goma, en Nord Kivu, ici en province, il y a beaucoup d'édits qui autorisent de multiples taxes. Cette loi va-t-elle intégrer les finances publiques provinciales pour mettre fin à ces pratiques qui asphyxient la population et dont on ne perçoit aucune réalisation sur terrain en contrepartie? Jean-Lucien Boussa, brièvement. Elle demande si cette loi va intégrer les finances publiques provinciales pour mettre fin à des pratiques qui consistent à mettre sur pied des édits qui autorisent de multiples taxes et qui dérangent la population.
Non, je pense que nous devons avoir des lois harmonisées. Il faut une loi des finances publiques qui intègre l'ensemble de la problématique de la gestion des finances publiques dans le pays, y compris la volonté de pouvoir organiser aussi bien les finances publiques locales, c'est-à-dire des ETD, que les finances publiques
décentralisées,
que des finances publiques des provinces. Lorsqu'on lit le budget de la République, on doit savoir qu'est-ce que la République dispose comme ressources, quels sont les objectifs, enfin, les ressources budgétaires, quels sont les objectifs que la République, au niveau central, au niveau provincial, au niveau local, s'est-il fixé. Et donc, c'est ce qui est essentiel. Maintenant, ça va permettre de pouvoir mettre fin à cette espèce de dit, ça permet tout au moins d'harmoniser la situation des finances publiques, mais le débat n'est pas là. Le vrai débat,
c'est l'application. Michel Soumoué, vous êtes analyste et directeur général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo. Quelle est votre analyse à ce niveau?
Je dirais, par rapport à la loi qui vient d'être adoptée, trois préoccupations. La première préoccupation, Jean-Lucien Boussa l'a dit, la disposition des autorités politiques, la volonté des autorités politiques et la capacité de ces autorités politiques d'appliquer les lois qu'ils publient tous les jours. Est-ce que la loi antérieure a-t-elle été correctement appliquée? Je ne pense pas. Parce que nous sommes un pays où on a toujours décrié les mêmes phénomènes, la corruption, les détournements, la mal-gouvernance, la non-transparence, etc. Deuxième préoccupation, liée un peu à ce que je viens d'évoquer sur l'application, c'est la même mise des institutions internationales, en particulier le Fonds monétaire international, sur le cadre économico-financier congolais. Est-ce que cette loi va affranchir notre gouvernement de la même mise du FMI? Nous sommes un pays où des années parfois passées, il n'y a pas longtemps, récemment, le Fonds monétaire international interdit à un pays d'appliquer un budget promulgué, voté et promulgué. Ou un budget voté et promulgué souffre 6 mois, 7 mois, 8 mois sans être appliqué, toute une année sans être du tout appliqué. Le Fonds monétaire international a ses principes et ses orientations qui s'imposent comme des dogmes évangéliques aux autorités gouvernementales. Ça, il ne faut pas se le cacher. La troisième préoccupation, c'est, bien quand je parlais de la troisième préoccupation, disais-je, c'est la relation, la corrélation qu'il faut établir nécessairement entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Est-ce que aujourd'hui, dans ce dos à dos entre la monnaie et les finances publiques, nous allons arriver à une loi de finances publiques qui concourt effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure dans le commentaire, à la croissance et à la réduction de la pauvreté. En l'occurrence, les finances publiques, le sénateur a dit tout à l'heure que nous sortons d'un ancien cadre où les recettes déterminaient les dépenses. Mais là, ce sont les objectifs politiques ou économiques qui vont déterminer les dépenses et les recettes vont s'aligner sur ces objectifs. Et donc, toute cette mobilisation, les recettes devront donc être calquées sur le besoin effectif de l'État. Mais je dis, OK, mais nous savons dans ce pays que l'activité productive intérieure est trop faible. Elle est trop faible parce que, c'est-à-dire la capacité contributive des opérateurs économiques au budget de l'État est trop faible, d'un côté. De l'autre côté, nous savons, il est trop faible parce que les opérateurs économiques n'ont pas un environnement économique qui leur permet de se déployer correctement.
Le climat des affaires.
Le climat des affaires. pour générer un niveau d'activité et un niveau de production qui puisse permettre un revenu conséquent qui couvrirait les besoins de l'État en termes budgétaires. Ça c'est un fait. De l'autre côté, la Banque centrale, avec la complicité du Parlement congolais, a supprimé des contreparties de la création monétaire. On aurait pu compenser l'absence du crédit à l'économie par le crédit à l'État. Or, les lois actuelles ont supprimé le crédit à l'État. Alors, dans cet environnement où le crédit à l'État n'existe pas, ou n'existe plus, le crédit à l'économie est réduit à sa plus simple expression, au strict minimum. Avec quelle recette, quelle sera la capacité du gouvernement en application de la loi structurelle du Parlement pour mobiliser des recettes qui seront dictées par les besoins effectifs et réels?
Mais c'est une préoccupation. Monsieur le Sommet, les innovations contenues dans cette loi vous laissent-elles aussi dubitatives?
Oui. Absolument, je dois rester dubitatif parce que les innovations sont pas formations. Prenons un cas d'innovation. Par exemple, on dit désormais on aura un budget pluriannuel. Ça passe pour une des plus grandes innovations de cette loi, si j'ai bien compris. Mais il ne faut pas qu'on perde de vue le fait que la politique budgétaire est une politique conjoncturelle, c'est-à-dire de gestion de l'économie à court terme. Le budget et la monnaie sont des instruments de gestion au quotidien de la vie des citoyens. Le fait d'avoir un budget pluriannuel ne veut rien dire par rapport au problème qui se pose dans la gestion quotidienne de la vie des citoyens. Donc, pour moi, ça risque d'être simplement des écrits, des vœux peut-être, sinon une gymnastique littéraire.
Sénateur Izati, cette loi permettra-t-elle effectivement d'affranchir le gouvernement de la mainmise des institutions internationales telles que le Fonds monétaire, qui était une question posée par Michel Soumé? Comment vous y répondez?
Très bien, comme mon collègue Moussala a dit tout à l'heure, je crois que la loi seule ne peut rien faire. Ce sont ceux qui appliquent la loi qui doivent donner un sens à cette loi. Bon, si c'est une question de détermination de volonté, si aujourd'hui, nous, dans des pays dits normaux, les outils de gestion budgétaire ne sont plus ce que nous avons aujourd'hui. Ils ont évolué. Ils sont faits de telle sorte que ça pousse à la mobilisation excessive de ressources intérieures. Et cela peut franchir le gouvernement si on y met, si on applique effectivement ce qu'il y a. Du point de vue d'abord des cadres de droit budgétaire dans notre pays. Dans notre pays, si on applique cette loi correctement, il y a des résultats escomptés qui sont attendus. Puisque aujourd'hui, tel que les choses se font, il n'y a pas de responsable. Je donne un très simple exemple dans le cadre d'exécution des budgets. Si au niveau du ministère de l'Environnement, rien ne se fait, on pointe le doigt le ministère du budget qui est responsable. Mais dans ce cadre, cette loi renforce le rôle des gestionnaires de crédit dans l'exécution du budget. Donc, le ministère, les institutions et toute autre personne déléguée dans ce cadre seront responsables des phases administratives de dépenses. Ça veut dire engagement, ordonnancement et liquidation. C'est une question de rendre compte et de s'assumer pleinement avant d'arriver à l'étape de paiement.
Prenons cette réaction qui nous vient de Liège en Belgique pour vous, sénateur Izati.
Augustin Karindo, merci Liège, Belgique. L'amélioration de la gestion des finances publiques congolaises exige des réformes institutionnelles, structurelles, mais aussi celles portant sur les ressources humaines. Si ce projet de loi est un effort en ce qui concerne le volet institutionnel, son impact semble voué à la maigreur, car beaucoup d'innovations sont à apporter. Le contrôle à redynamiser, les fonctionnaires à rééduquer moralement et à rémunérer, l'impunité à éradiquer et les outils de travail à moderniser.
Réaction, sénateur.
Oui, il a tout à fait raison, parce que cette loi va être accompagnée de cortèges de réformes, d'abord dans d'autres textes, même dans d'autres textes, dans la formation du personnel. Donc, la loi va s'exécuter progressivement en ayant 7 ans. Pendant tout ce temps, ça veut dire qu'il faut préparer des personnes qui doivent accompagner l'application effective et avec un objectif bien déterminé de l'application de cette loi pour que les choses changent effectivement.
Honorable Jean-Lucien Boussa, vous réagissez également au propos du sénateur Izaki, mais prenons d'abord cette question qui nous vient de Bukavu au Sud Kivu pour vous.
Jacques Assouengue de Bukavu, Sud Kivu. Je pense que cette loi devrait prévoir la création d'un organe spécial de contrôle, car le contrôle du Parlement et de la Cour des comptes semble inefficace.
Réaction honorable.
Moi, je crois que j'ai posé le problème de fond, le problème de la vision. Que veulent les donneurs d'impulsion, c'est-à-dire les acteurs institutionnels au niveau le plus élevé de l'État? Si ce qu'ils veulent connu, c'est-à-dire si nous avons une vision stratégique de la République démocratique du Congo, nous savons ce que nous voulons sur 5 ans, sur 25 ans. Nous savons ce que nous voulons par rapport à la croissance économique, par rapport au développement du secteur de santé publique de l'éducation nationale. Bref, par rapport à l'amélioration du bien-être. Si nous voulons ce que nous savons la décliner. Qu'est-ce qui se passe? Les institutions existent. Le Parlement existe. Le contrôle interne au sein du gouvernement existe, au travers de l'inspection générale des finances. Le contrôle de la Cour des comptes existe. Le contrôle parlementaire au niveau national existe.
Même si
le contrôle, et j'en arrive. Comment dirais-je, les attributions en matière de contrôle au niveau de l'Assemblée provinciale, ces institutions existent. Mais est-ce que ces institutions de contrôle travaillent-ils? On peut dire oui. Mais est-ce que permettent-ils d'atteindre le résultat? C'est-à-dire, sont-elles efficaces? Non! Tout simplement parce que ces institutions sont paralysées par le fait du politique. Vous avez fait un contrôle parlementaire. Vous avez noté que les membres du gouvernement ont trempé dans la gestion de la corruption. Mais lorsqu'arrive le moment de sanctionner, c'est les intérêts politiciens qui émergent. Ça veut dire que les acteurs institutionnels, au niveau du président de la République, au niveau du gouvernement de la République, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des assemblées provinciales, ils sont censés sanctionner, ne jouent pas leur rôle. Voilà le problème. On va multiplier les institutions si la vision reste la même. C'est-à-dire, c'est de couvrir les détourneurs, c'est de couvrir les mauvais gestionnaires. On n'en arrivera pas, malgré les nouveautés apportées par la loi, à trouver les réponses idoines.
Donc,
le problème se trouve dans la volonté politique.
Donc, on n'a pas besoin, par rapport à Jacques Assouni, on n'a pas besoin de créer un organe spécial de contrôle en
dehors. On n'a pas besoin. Il suffit, comme dans les autres pays du monde, le Brésil, la Chine, où au niveau du leadership politique, on dit les ministres qui détournent, les députés qui s'amusent avec les décisions publiques, les gestionnaires d'entreprise qui détournent l'argent de l'État, il est puni sévèrement et il s'est considéré comme tel. Vous allez vous rendre compte que nos institutions deviendront efficaces. La théorie actuelle en matière d'institutions est claire. La qualité des institutions détermine le niveau de croissance, le niveau de développement. La qualité des élites au pouvoir détermine la qualité des institutions et la qualité du développement. Et c'est là le cercle vicieux dans lequel on se trouve. Mauvaise qualité des élites, mauvaise qualité des institutions, mauvaise pratique de gestion, et les résultats est négatif pour tout un peuple.
Michel Somoué, il y a une question qui nous vient de Béni au Nord, une réaction qui nous vient de Béni au Nord qui vaut pour vous.
Robert Ngolisco, je suis à Béni au Nord. Nous pouvons bien observer l'adoption de loi sur les politiques. Mais s'il n'y a pas de répétition sur les élections de la population, eh bien nos députés auront péché dans le désert.
S'il n'y a pas de répercussions sur le vécu quotidien de la population, les députés auraient prêché dans le désert, M. Nsoma.
Absolument.
Et ça fait sourire les honorables.
Bien sûr, bien entendu. C'est ce que je disais, un exercice plus simple d'action, comme on a fait la dissertation à l'école secondaire. Ça disait que ça, l'exercice auquel les députés sont en train de se livrer, avec le gouvernement. Regardez, le problème, finalement, n'est pas celui de la pertinence ou pas de la loi. Nous avons tous besoin de réformes, nous avons tous besoin de lois. Mais à entendre les honorables députés sur le plateau de la radio, et c'est avec quoi je suis parfaitement d'accord, ce qu'il faut réformer d'abord, c'est l'État lui-même. Parce que si les institutions, comme disait Lucien Boussa, sont celles-là, qui ne s'assument pas, qui ne font pas chacune ce qu'elles devraient effectivement faire, il y a un problème d'État. La nature de notre État est un État prédateur. Un État prédateur peut-il concevoir des lois qui soient vraiment en faveur du vécu quotidien des citoyens congolais? Ça va rester une simple littérature. Nous avons le sénateur Zaki a dit tout à l'heure que la loi renforce le rôle des gestionnaires de crédit. Moi, quand tu dis ça, moi, ça me fait frissonner quelque part en me disant, quand on prend, par exemple, la configuration de notre gouvernement, lorsque je vois des pouvoirs exorbitants qui sont laissés gratuitement au ministre des Finances et au gouverneur de la Banque centrale, de décider souverainement de quoi payer, quoi ne pas payer. Quel est le pouvoir de gestion du ministre de la Santé, du ministre de l'Économie nationale, du ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises congolaises par rapport à ce pouvoir à la limite arbitraire dont est doté le ministre des Finances qui seul peut se dire aujourd'hui je paye telle créance et telle autre et pas toutes les autres, bien qu'elles ont été préalablement et conformément à la loi budgétisée. Est-ce que ce gouvernement travaille dans un esprit d'égalité, d'équité entre les membres qui le composent pour que les lois soient respectées et qu'elles s'opposent à chacun? Je prends le cas d'un ministre qui engage régulièrement sa dépense pour même pour le fonctionnement, même pour, par exemple, un équipement quelconque qui est indispensable pour subvenir aux besoins du quotidien des citoyens, bien entendu, dans le budget. Là. Quand cette dépense arrive au ministère des Finances, ce ministre-là est-il sûr que le ministre des Finances va exécuter cette dépense? S'il va effectivement ordonnancer, établir un ordre de paiement, il n'en a pas. Même les ministres ne savent pas. Je vois des ministres qui se trouvent à appeler leurs collègues au téléphone qui ne décrochent même pas. Il y a trop d'arbitraires au sein de la composante du gouvernement. Il y a trop d'arbitraires au niveau de l'État lui-même. J'ai l'impression que quelque part l'État ne s'assume pas. Les gestions de l'État ne se respectent pas elles-mêmes. Avant que nous puissions espérer que la gestion efficace de l'État, plutôt que l'application de la loi, pourra permettre de rencontrer des préoccupations de la population. Il y a un problème de réforme de l'État et c'est indispensable.
Sénateur Izati, je rappelle que vous êtes vice-président de la Commission économique, financière et bonne gouvernance au Sénat. Il y a des auditeurs qui nous écrivent, Justin de Kinshasa, une loi qui est votée à la fin du mandat aura quel impact sur la population et les agents de la fonction publique recensés et qui viennent de totaliser 5 à 10 années d'arriérés de salaire. Alain Bouy de Lumbashio-Katanga, dans notre pays, plusieurs lois ont été votées mais sont restées lettres mortes. Je ne vois pas ce que celle-ci peut apporter de nouveau dans la vie des Congolais. Honorable Odiane et Paula du Sud-Ouest en province orientale, l'assainissement des finances publiques dépend de la volonté politique et de l'application non sélective de la tolérance zéro, actuellement vidée de sa substance, sénateur Izati.
Permettez-moi d'abord de réagir à ce qu'a dit le bon voisin de gauche, au sujet des gestionnaires de crédit. Je vous ai donné l'exemple que jusque-là, ils n'avaient pas de responsabilité bien ciblée de gestionnaires de crédit dans le secteur qu'ils animent. Aujourd'hui, cette loi introduit comme innovation la responsabilité des gestionnaires. Qui sont les ordonnateurs et de l'ordonnateur et des gestionnaires du crédit? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vous donne l'exemple des ministères de budget, qu'aujourd'hui, on pointe les doigts pour être responsable de tous nos paiements de telle ou telle dépense. Mais la présente loi introduit au niveau de chaque secteur ou de chaque institution, c'est celui-là qui va gérer son crédit pleinement responsable. Ce qui n'est pas l'État maintenant. Il sera responsable de son crédit. Il rendra compte, il sera contrôlé par des organes de contrôle à ce sujet. Ce qui n'est pas l'État maintenant. Nous avons déploré le problème de manque de sanctions, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on a ciblé. Il y a une loi et il y a des acteurs de cette loi qui sont ciblés dans la loi, qu'on devra bien préciser. Alors, l'autre aspect du problème, c'est une loi qui est faite à la fin du mandat. Est-ce que ça vaudra encore la peine qu'elle soit appliquée ainsi de suite? Les lois ne sont pas faites pour des personnes aujourd'hui. Les lois sont faites pour demain. Les lois sont faites pour demain. Que le mandat soit terminé ou pas, le mandat ne vient pas supprimer l'institution parlement. La fin du mandat ne supprime pas l'institution parlement. Il y aura d'autres parlementaires qui viendront, qui continueront avec la même œuvre de rédiger des lois.
D'autres auditeurs, pour vous, sénateur Isaki, Michel de Kinshasa, les lois votées ne garantissent rien sur la gestion même des finances publiques, mais que la procédure de l'enquête de loyauté soit exigée des candidats avant toute affectation à un poste civil ou militaire. Je pense que ceci est la loi importante à voter d'abord et créer la structure des enquêteurs. Kaliba Godefroy de Gemont-Nord-Kivu, on peut changer plus de 1000 fois les lois de la gestion des fonds des finances publiques, mais sans punir ceux qui les utilisent pour, jour pour jour pour leur propre fin, c'est toujours zéro. Donc je pense que cette loi n'aura pas d'effet. Il y a un problème d'impunité qu'il faut bannir, sénateur Isaki.
Il faut croire à ce qu'on veut faire. Mais si nous ne croyons pas à nos lois, personne d'autre ne viendra croire à notre place. Nous devons faire en sorte que ces lois soient efficaces, que ces lois aient effectivement un impact positif sur la population du point de vue bien-être. Donc, ce n'est pas. On ne peut pas ériger des murs de lamentation sans rien faire. Mais nous sommes aujourd'hui au Parlement, nous devons faire notre devoir. Ceux qui sont au gouvernement doivent faire leur devoir. Tout cela pour améliorer tant soit peu le bien-être social de notre peuple. C'est l'objectif final.
Honorable Jean-Lucien Boussa, vous êtes député MLC, vice-président de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour assainir complètement les finances publiques en RDC? Dans ce débat, il a été évoqué la réforme totale de l'État, la volonté politique et la sanction pour les détourneurs. Que faut-il de plus?
Je crois qu'il faut commencer par les fondements. Les fondements, c'est l'État. L'État régulateur. Comment l'État régulateur travaille-t-il de sorte que la politique budgétaire, qui est une politique conjoncturelle, puisse permettre d'atteindre les objectifs qui sont les siens? Je veux dire, il faut un État intelligent, il faut un État prévoyant et un État responsable. Et donc, je parlais de l'État régulateur au travers de tous ses fonctions. L'État régalien. Mais quel est le travail de l'État régalien? Les fonctions de la justice, parce que nous parlons de l'ascension. L'état des droits lui-même. Quand on a voté, on doit être redevable vis-à-vis de la justice et vis-à-vis de la population. Est-ce que cet état régalien existait-il? L'état producteur. L'état producteur, donc l'état dispensateur de services publics de qualité. Lorsque l'état a intériorisé l'ensemble de ses fonctions, y compris la fonction des redistributions, c'est-à-dire ce qui consiste à régler les problèmes des inégalités sociales, à régler les problèmes des injustices sociales. Si l'État lui-même est répondu dans ces quatre dimensions, nous pouvons espérer que les acteurs institutionnels, les acteurs étatiques, intériorisant eux-mêmes le rôle de l'État, puissent permettre à chaque institution de pouvoir, chacune, faire son travail. Et donc, les lois, quelles qu'elles soient, un auteur a dit, il n'existe pas de mauvaise loi. Les problèmes des lois, c'est leur mauvaise application. Voilà le problème. Donc je crois que le problème est fondamental. Répondre à l'État est un État intelligent, un État prévoyant et un État responsable et redevable.
Michel Sommeux, vous êtes analyste et directeur général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo. Jean-Lucien Boussa a aussi parlé d'un État producteur. Ne faudrait-il pas mettre l'accent sur la production interne pour finalement s'affranchir de la tutelle des organismes internationaux?
Je l'ai dit dès le départ. J'ai commencé par mentionner que la politique monétaire est une pesanteur énorme par rapport à la politique budgétaire et donc par rapport à toutes les formes de lois que l'on peut évoquer qui puissent être axées sur un certain accroissement des recettes ou un certain rôle de l'État dans la société ou dans l'économie. Je l'ai dit, pour encourager la production intérieure, il faut qu'on mette en place un cadre, et voyons compléter en disant le climat des affaires. Le cadre économico-financier idéal, c'est celui qui est en faveur de la promotion des investissements locaux. Ce n'est pas celui qui est en faveur de l'impérialisme et des importations. Le cadre idéal, le cadre de l'environnement économico-financier que nous recherchons, ce n'est pas cette mondialisation qui sert de pierre tombale à la souveraineté nationale et à l'économie nationale. C'est pas logique. Il faudrait que toutes les institutions de la République s'assurent. Il faut que les secteurs monétaires, bancaires et financiers du pays fonctionnent pour financer une activité économique intérieure et mettre en place une économie nationale, je souligne le mot national, qui soit soutenue par une classe moyenne congolaise. Et alors à ce moment-là, et à ce seul moment-là, nous pourrons avoir un État responsable, parce qu'il sera l'émanation de cette classe moyenne, qui est une classe productive. C'est cet État productif dont parle Jean-Lucien Boussin. Il ne procédera que de la classe moyenne congolaise, qui est une classe productive, et non pas d'une bourgeoisie comprador. C'est ça le problème. Il nous faudrait mettre en place des opérateurs économiques congolais grâce à des mesures d'encouragement de l'activité économique intérieure et dont la première mesure se trouve être la politique monétaire parce qu'elle détermine même la politique budgétaire, comme disait Colbert. Faites-moi de la bonne monnaie et je vous ferai de bonnes finances.
Sénateur Ezati, il faut assainir le climat des affaires également.
Très bien. C'est indispensable. Le climat d'affaires doit être assaini pour que les opérateurs économiques qui contribuent à la richesse du pays dans le secteur privé puissent œuvrer dans des règles universellement admises pour permettre au pays, apporter au pays un plus. Donc, il est tout à fait normal qu'on puisse harmoniser la situation des hommes d'affaires, les sécuriser dans le cadre du climat d'affaires.
Il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Il va déjà falloir conclure, sénateur Ezati. À quoi devrait s'attendre la population, les internautes, les auditeurs qui sont en train de vous suivre maintenant par rapport à cette loi sur les finances publiques?
J'invite tout le monde à croire à nos œuvres. Si nous créons des lois sans politique y croire, c'est de peine perdue. Et cette loi vise un objectif. Cette loi vise un objectif de regrouper tous les textes en matière de finances qui existent dans notre pays en le regroupant dans un texte unique et qui couvre toutes les administrations de notre pays. Je veux dire le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées.
Ne faudrait-il pas, par exemple, au niveau de la majorité présidentielle, renforcer également le contrôle au sein et de la majorité du gouvernement?
Mais comme nous l'avons dit, les organes de contrôle existent. Il faut les animer. Le Parlement fait ce qu'on appelle des contrôles politiques. Les contrôles des juridictionnels, des gestionnaires.
Mais également des sanctions politiques.
Oui, qui ont aussi des sanctions politiques. La preuve, c'est l'Assemblée nationale qui approuve le programme du gouvernement. Donc, elle en a l'obligation de suivre s'il y a des dérapages, de sanctionner ceux qui contribuent à ces dérapages de ce programme-là. La Cour des comptes joue le rôle de contrôleur juridictionnel.
Merci. Honorable Jean-Lucien, pour sa conclusion.
Tous les actes de gouvernement pris au sens large du terme visent le mieux-être de tous les citoyens. Il n'y aura jamais de mieux-être sans politique cohérente et adéquate. Je veux dire, il n'y aura jamais de politique adéquate sans institutions crédibles. Il n'y aura pas d'institutions crédibles sans élites responsables et redevables. Monsieur Sommet.
Moi, je crois que nous croyons. Nous croyons à notre État, nous croyons à nos institutions, nous avons besoin qu'elles s'améliorent. Si nous ne croyons pas, on ne voterait même pas pour les députés qui sont. Nous croyons, c'est un signe de foi. Mais nous attendons d'eux qu'ils soient responsables, qu'ils s'assument. Nous croyons notre gouvernement et nous voulons qu'ils s'assument. Nous croyons à toutes les sœurs de la République pourvu qu'elles s'assument. Nous avons le droit de nous plaindre lorsqu'elles ne s'assument pas.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir été des millions à nous suivre en FM et sur RadioCapé.net. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Thank you.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 56 78 ou par mail dec@radiopathie.net.